Le débat de midi. Thomas Chauvineau.
Et ça va, ça vient, cette histoire de médicaments vendus ailleurs qu'en pharmacie. L'histoire d'aujourd'hui ne parle que des médicaments vendus sans ordonnance. En France, seules les officines ont le droit de les commercialiser. Ce n'est pas la première fois que le monopole est remis en question. L'inspection générale des finances vient de le faire. L'an dernier, c'était l'autorité de la concurrence. Et en 2008, le rapport Attali disait la même chose. Et pourtant, rien ne bouge. Ce sont toujours les pharmacies qui vendent les médicaments. Pour combien de temps encore? C'est la question de notre débat de midi. Médicaments en vente libre, on attend vos réactions de patients. 48 boîtes par an et par personne en France. Twitter @ le débat de midi et franceinter.fr.
Le débat de midi sur France Inter.
Et nous sommes nombreux aujourd'hui pour discuter de cette question. Tout d'abord Philippe Bessé, bonjour.
Bonjour,
vous êtes vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Patrick Hérard, avec nous en studio, bonjour.
Bonjour.
Président du LEM, les entreprises des médicaments. Et à vos côtés, Victoire Nsondé, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à 60 millions de consommateurs. En face de vous, Victoire Dominique Dupagne,
bonjour.
Médecin généraliste et blogueur, fondateur du site atout.org. Et enfin, Emmanuel Combe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'autorité de la concurrence, mais c'est d'abord avec le journal La Croix que nous ouvrons l'émission. Et c'est avec vous, François Hernenwein. Bonjour.
Bonjour.
Et ce qui fait débat dans vos pages aujourd'hui, mardi 12 août. François.
On s'est intéressé à la pression qui s'exerce sur le littoral français, construction, urbanisme, etc., pour essayer de voir comment trouver le bon équilibre entre le développement des côtes et...
Et la pression constante,
voilà.
Pas liée d'ailleurs aux vacanciers, c'est un petit peu le chemin de traverse que vous prenez. 6 millions de personnes vivent dans une commune littorale, voilà. En France, et on en attend 4 de plus d'ici
quelques années,
2040. 4
ans.
Ouais, d'où les questions.
2040, oui, effectivement. Donc la pression sur les côtes françaises est forte, elle est votée en 1986. La loi littorale veut concilier le développement du territoire et la protection de l'environnement. Donc on est à la recherche du bon équilibre. La loi littorale, en fait, a permis de contenir cette urbanisation forte des côtes en interdisant les constructions à moins de 100 mètres du rivage, en imaginant une urbanisation économe de l'espace, pardon, et en essayant d'assurer la protection des sites naturels. Par ailleurs, le Conservatoire du littoral, par ses acquisitions foncières, permet de garder des fenêtres de nature... à travers des activités agricoles, des chemins, etc. Mais la pression reste forte. Alors, on évoquait ce chiffre tout à l'heure. Les constructions sont élevées et continueront à être élevées. Et donc, c'est autour de cette tension entre protection et développement qu'on essaye de décrire l'effort des élus pour limiter les projets pharaoniques, évaluer aussi... plus finement les capacités d'accueil des côtes, et puis avoir une vision durable de l'aménagement de ces mêmes côtes.
Et cette question aussi qui se pose, c'est est-ce qu'on peut continuer à accueillir toujours plus de monde sur les côtes qui sont de plus en plus fragiles, avec des contraintes naturelles, on l'a vu évidemment avec la tempête Xynthia, de plus en plus fortes.
L'arbitrage se fait assez systématiquement en faveur de la préservation de l'environnement. Il y a justement un débat qui est ouvert en faveur du développement de ces côtes.
Ben merci François d'être venu nous parler aujourd'hui de cet article à retrouver dans les pages de La Croix du mardi 12 août 2014, Le Littoral, à la recherche d'un équilibre fragile.
Un, deux.
Les médicaments sans ordonnance ou dont l'ordonnance est facultative bientôt ailleurs qu'en pharmacie, c'est la question de ce débat de midi qu'on se pose aussi avec vous sur Twitter, @ le débat de midi, et sur franceinter.fr. Et c'est juste après le collectif français Chinese Man et la chanteuse argentine Laye Gross. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, il est midi 20.
Siempre estás.
Débat de midi, cet été sur France Inter, Thomas Chauvineau.
Un débat de midi qui a déjà commencé pendant le disque entre deux de mes invités, consacré aujourd'hui à la vente de médicaments en dehors des pharmacies, avec Philippe Bessé, qui est le vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Patrick Erhardt, le président du syndicat LEM, les entreprises du médicament, et Emmanuel Combes, qui était en grande discussion, le vice-président de l'autorité de la concurrence, avec Dominique Dupagne, médecin généraliste. Victoire Ensondé, journaliste à 60 millions de consommateurs, est également avec nous. Ces messages qui nous arrive déjà sur Twitter. OC à la B nous dit pourquoi pas chez le tabac, pourquoi pas chez Leclerc, on augmenterait les ventes. Chic de la TVA et le pavot chez Jardiland également. Amandine nous dit à l'heure où la justice retoque un service de site de pharmacie en ligne, c'est un bon sujet. On aura l'occasion en effet de reparler de ce site qui s'appelle 1001 Pharmacie. Nous sommes au téléphone avec Philippe Bessé, donc le vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Je le disais en préambule, Philippe Bessé, c'est pas la première fois que ce monopole est remis en question.
Absolument, c'est remis en question à peu près tous les 6 mois. Donc c'est un débat qui commence à provoquer un certain ras-le-bol dans ma profession, comme vous le comprenez. On en parlera. Je parlerai du choix lui-même, mais également des difficultés des pharmacies, puisque c'est aussi une attaque du rapport de l'Inspection générale des finances. Et ça, il faudra qu'on en dise un mot.
Allez-y, faites-le.
Alors, on va commencer par ça, puisque ce ras-le-bol, il est lié aux difficultés des pharmacies dans les 8 dernières années. On a cette image de nantis qui colle à la peau et qui est devenue fausse. On a 25% de perte de pouvoir d'achat dans les 6 dernières années. Une pharmacie qui ferme tous les 3 jours, c'est 1000 fermetures d'officines dans la même période de temps. Et ça, c'est dû aux lois de finances sécurité sociale. Qui sont chaque année, pour tout vous dire, et Patrick Erhardt me confirmera tout à l'heure, probablement, ce qui nous inquiète le plus à l'automne, c'est pas tellement la loi en préparation de M. Montebourg, c'est la loi de finances sécurité sociale qui va encore faire baisser les prix de plus d'un milliard d'euros pour la 9e année consécutive.
Alors, si on reste quand même, Patrick, voilà, Bessé, sur le médicament et la possibilité de l'acheter ou non ailleurs qu'en pharmacie, il y avait déjà un rapport qui le préconisait en 2008, c'était le rapport Attali. Ici, sur le plateau de l'émission, il y a le vice-président de l'autorité de la concurrence, Emmanuel Combes. Un rapport disait sensiblement la même chose l'an dernier. Comment vous justifiez aujourd'hui ce monopole ?
Alors, je vais vous dire comment on le justifie, mais on le justifie de façon très simple. L'officine est garante de la sécurité des produits de santé et de la sécurité de l'approvisionnement en médicaments. C'est-à-dire qu'en fait, nous contrôlons la juste quantité de médicaments vendus sur le territoire. Vous n'aurez jamais, et ça, tous les gens autour de la table vous le diront, ils contesteront peut-être certains des défauts de conseil de temps en temps, mais jamais vous n'aurez vu une pharmacie ou un pharmacien pousser à la consommation de médicaments. C'est exactement l'inverse que nous faisons. C'est pour ça que dans ce pays, nous avons, pour les médicaments d'automédication, le plus petit budget de l'Union européenne. nous avons 32 euros de médicaments achetés par les Français dans ce qu'on appelle les médicaments d'automédication.
Sur les 525 qu'ils dépensent chaque année. Emmanuel Combes de l'Autorité de la Concurrence.
Pour rebondir sur ce que disait M. Bessé, il faut être très clair, il y a en fait deux monopoles. Il y a le monopole de compétences et personne ne le remet en cause. Personne ne remet en cause que seul un pharmacien peut délivrer un médicament. Et il y a un second monopole qui est le fait que seul un médicament sans ordonnance, on est tous d'accord qu'on restreint le champ, puisse être vendu en pharmacie. Distinguons bien les deux sujets, ne faisons pas d'amalgame. Première remarque. Deuxième remarque, par bonheur, la France n'est pas seule au monde. Il y a un pays qui s'appelle l'Italie, pas vraiment un pays anglo-saxon, qui a ouvert, de manière raisonnée, équilibrée, certains médicaments à la concurrence.
Dans les années
2000. Je pose la question à M. Besset, c'était en 2007, hein, si je ne me trompe pas, nous avons 7 ans de recul. A-t-on vu une surconsommation? On a vu des baisses de prix, ça c'est clair. A-t-on vu une surconsommation? A-t-on vu un risque sanitaire accru? L'autorité, pour sa part, a enquêté, a rendu sa consultation publique. Nous n'avons pas, à ce jour, d'études nous démontrant que la libéralisation encadrée, ne tombons pas dans la caricature, il ne s'agit pas de vendre des médicaments avec ordonnance au supermarché par une personne qui ne soit pas pharmacien. Donc attention à ne pas tomber, je dirais, dans le débat caricatural. Le monopole de compétences, en tout cas pour l'autorité de la concurrence, n'a jamais été un sujet.
L'autorité de la concurrence, d'ailleurs, qui s'est prononcée déjà en 2013 pour libéraliser une partie des médicaments.
Je n'aime pas ce mot libéraliser parce qu'il donne le sentiment qu'il n'y a pas de règles. Les médicaments sans ordonnance, avec la présence d'un pharmacien, c'est-à-dire qui respecte le code de déontologie. Je pose la question, en quoi un diplômé en pharmacie qui respecte le code de déontologie, qui a un contrat de travail avec des restrictions, des spécifications en termes de responsabilité, est-il moins compétent sur ce type de médicament qu'un pharmacien en officine? Là est le vrai sujet. Le sujet n'est pas, je le répète, de remettre en cause la compétence et le monopole des pharmaciens. Sur ce sujet.
Dominique Dupagne, médecin généraliste, est-ce que ça peut être dangereux de vendre certains médicaments en magasin, en dehors des pharmacies? On pense évidemment au paracétamol.
La seule différence qu'il y a, c'est que dans un supermarché, vous êtes en libre-service. C'est vous qui piochez dans les rayons. Le pharmacien, vous n'allez pas piocher dans ses rayons, vous ne faites pas le tour du comptoir. Donc il y a quand même une différence. Mais en fait, on est face à ce qu'un humoriste avait très bien décrit en disant que face à chaque problème, il y a une solution simple, évidente et fausse, si vous voulez. On se retrouve devant, en fait, une absence de problème. Le paracétamol sous forme de doliprane, l'ibuprofène sous ces différents...
Qui pourrait être vendu donc en grande surface.
Ça coûte le prix d'un paquet de bonbons, c'est 2 euros la boîte. Donc de toute façon, c'est un prix imposé. Donc il n'y a pas de gain possible pour la vente en grande surface, puisque c'est comme le prix du livre, si vous voulez, c'est exactement pareil. Alors il reste les médicaments qui sont ni sur ordonnance, ni remboursés, et qui généralement, très honnêtement, ne servent pas à grand-chose. Hein. C'est vraiment généralement du perlimpinpin, voire pour certains des congestionnants pour le nez, des médicaments carrément dangereux, pour lesquels il faudrait préférer des boissons chaudes et de l'eau citronnée. Et donc le gisement d'économie qui se compte potentiellement en quelques euros par personne au maximum me paraît beaucoup plus important dans d'autres régulations du médicament, dans le découragement d'utiliser des produits qui servent à rien. Et je vous passe sur le fait, par exemple, de ne pas donner des médicaments à 1 000 euros par jour contre le cancer à des gens qui agonisent ou des autres choses comme ça qui sont bien plus importantes que cette espèce
donc
de chasse aux
sorcières. Donc ce serait une non-mesure pour vous?
C'est une non-mesure face à un non-problème. Il faut voir d'où ça vient.
Alors c'est quoi un positionnement médiatique?
L'Inspection Générale de Finances, c'est des jeunes énarques qui viennent faire 4 ans à faire des chiffres, qui triturent des tableaux Excel. D'ailleurs, ils sont tous partis. J'ai regardé ce qu'étaient devenus les gens qui avaient rédigé le rapport. L'Inspecteur Général des Finances, celui qui pantoufle un peu à 120 000 euros par an. Moi aussi, je préfère des rapports pour moins cher, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, on préfère de la dérégulation. L'inspecteur général des finances est déjà parti comme l'administrateur d'Air France et quasiment tous les autres rédacteurs, sauf un, sont dans le privé ou sont dans une administration. Donc c'est un exercice de style qu'on voit sortir tous les 6 mois, une espèce de marronnier. Mais même Montebourg, qui est quand même très audacieux, et je dis ça en étant poli, je ne peux pas croire qu'il va tenir compte d'absurdités pareilles.
En attendant, un rapport, une note de Bercy, puisque vous parlez d'Arnaud Montebourg, estime que les médicaments sans ordonnance, vendus ainsi, en forme de libre-service, que ce soit dans une grande surface ou ailleurs, ça pourrait être une économie réalisée de 327 millions d'euros.
Tout est dans le pourrait. Vous avez des effets de bord qui sont terribles, et vous avez surtout d'autres médicaments, d'autres paracétamol, d'autres ibuprofènes, qui sont bien plus chers que le produit qui est en pharmacie à 2 euros, et qui risquent, par méprise, d'être achetés par des consommateurs qui croient qu'ils achètent pas cher, et qui finalement vont dépenser plus d'argent que s'ils allaient en pharmacie en demandant un produit précis.
Alors en attendant, j'entends que, selon vous, en tout cas, il y a en pharmacie des médicaments vendus sans ordonnance, tels que des décongestionnants pour le nez qui peuvent être dangereux, au pire, ou inutiles, clairement, dans le meilleur des cas. Patrick Erard, du LEM, des entreprises du médicament, il y a aujourd'hui en pharmacie des médicaments dangereux?
Le médicament
est accessible sans ordonnance.
Le médicament n'est pas un produit banal. De toute façon, il faut rester sur cette idée que tout médicament, par définition, est un sujet d'efficacité, mais également un sujet de tolérance. Je crois que pour les entreprises du médicament, la question qui est posée autour du débat d'aujourd'hui, je pense, c'est celle que se posent tous les auditeurs qui nous écoutent. C'est comment est-ce qu'on garantit, dans des conditions de sécurité absolue, la délivrance d'un produit qui n'est pas, comme vous le disiez, un paquet de bonbons, mais qui est un médicament, c'est-à-dire qui doit être encadré dans la délivrance, dans le conseil, même quand il est en prescription médicale facultative, ce qui doit être fait par un professionnel de santé et donc par un pharmacien, si possible, et je pense que c'est ce que le Conseil de l'Ordre des pharmaciens souhaite, indépendant, c'est-à-dire qui n'est pas sous la gouverne d'une entreprise qui lui inflige éventuellement des objectifs. C'est peut-être là le doute que l'on peut avoir sur l'ouverture de la délivrance aux grandes surfaces. Et le travail qui doit être fait par le professionnel de santé, c'est de s'assurer que même ce médicament que prend spontanément le patient qui est devant le comptoir, eh bien, est-ce qu'il peut le prendre en toute sécurité? Est-ce que, notamment, vous citiez l'ibuprofène, est-ce qu'il n'a pas par ailleurs un anti-inflammatoire sur son ordonnance qui lui a fait le médecin? Est-ce qu'il ne prend pas un anticoagulant, de l'aspirine? Et donc ces conditions de sécurité de délivrance doivent être assurées quel que soit l'endroit où l'on vend le médicament. Point.
Bon, c'est il n'y a pas d'autre débat que celui-là. C'est quand même relativement rare qu'un pharmacien vous demande si vous êtes sous anticoagulant quand vous allez acheter une boîte de paracétamol.
Ça dépend si vous avez des pharmaciens consciencieux ou pas, mais je pense que la plupart le font et le font correctement.
Victoire Ensondé du journal 60 millions de consommateurs.
On oublie dans cette histoire qu'il existe déjà des situations, par exemple, on peut acheter des médicaments devant le comptoir, donc on les achète, on rentre dans l'officine, on prend son médicament, ensuite on va à la caisse et le pharmacien peut, à ce moment-là, exercer donc, le conseil qui est nécessaire. Donc il y a déjà des situations où le patient, il est habitué à regarder sur des rayonnages, prendre certains médicaments qui sont certains médicaments et pas d'autres. Hein. Donc effectivement, il faut faire attention aux médicaments qui pourraient être proposés de manière entre guillemets plus libre. Et ensuite, le conseil du pharmacien, de toutes les façons, il s'exerce. Oublions pas non plus que désormais, on peut acheter des médicaments dans des pharmacies en ligne. Donc il y a déjà des, entre guillemets, expériences qui existent.
Alors, c'est compliqué, en tout cas, pour ceux qui essayent de le faire en ce moment, on y reviendra.
C'est compliqué, mais il existe, en fait, désormais, il y a quand même des évolutions. Donc je pense qu'il ne faut pas se crisper cette question de officine ou pas officine. Le conseil du pharmacien, bien sûr. Quels médicaments ont leur place dans ce type de délivrance? Ça, c'est aussi une question qui est importante. Et il ne faut pas oublier également...
Là, voilà, c'est question assez clair. Ce sont les médicaments sans ordonnance, voilà, et les médicaments dont l'ordonnance est facultative.
Oui, mais comme disait Dominique Dupin, il y a certains médicaments qui ont peut-être pas non plus... Il faudrait peut-être faire un peu le ménage. Nous, c'est ce qu'on constate aussi dans nos études sur les médicaments d'automédication.
C'est la question que j'ai posée à Patrick Erard qui ne nous a pas répondu. Y a-t-il des médicaments inutiles, voire dangereux, aujourd'hui en vente en pharmacie?
Définition, par
Dominique
définition,
Dupin, le médecin généraliste, hausse les épaules, d'un air de dire oui, il y en a.
Par définition, encore une fois, tout médicament a ses contre-indications, ses dangers. Même les médicaments en prescription médicale facultative. Ce n'est pas une question de médicaments dangereux ou pas. C'est que vous êtes sous anticoagulant, vous prenez de l'ibuprofène, ce qui est un médicament qui peut paraître banal à tous ceux qui nous écoutent, eh bien, il y a une interaction médicamenteuse entre les deux. C'est donc potentiellement dangereux. Effectivement, tout médicament repose sur le principe de l'efficacité et de sa sécurité.
Philippe Bessé, vice-président pardon, de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Oui, moi, de mon point de vue, même les produits dont il était fait question par Dominique Dupagne, qui sont donc par exemple les vasoconstricteurs nasaux, en fait, quand on a un rhume, on a souvent le nez bouché. Donc il est clair que on prend ce type de produit pour passer son rhume, pour soigner le symptôme. Ça ne soigne absolument pas. On ne gagne évidemment pas un seul jour par rapport à la maladie, mais ça permet d'aller travailler, ça permet de passer le rhume dans des conditions correctes. Ce qu'on appelle le symptôme. Évidemment, il faut faire attention parce que dans ce type de produit où il y a plusieurs produits, dont le paracétamol, dont il a été question déjà, eh bien, le paracétamol, c'est un surdosage au-dessus de 4 grammes. On est en surdosage et on a un risque hépatique. Donc tout ça, ça doit être contrôlé. Moi, j'entends les critiques qui disent que parfois le pharmacien ne pose pas cette question. C'est possible, mais il ne faut pas faire la politique du pire. C'est pas en mettant dans des têtes de gondole, dans des temples de la consommation des médicaments, avec effectivement, comme il a été dit, des pharmaciens, des salariés qui seront probablement objectivés sur les ventes, qu'on va régler le problème, on va l'amplifier. Donc nous, on est prêts à travailler sur justement un meilleur encadrement. On est prêts, on avait d'ailleurs proposé au ministère de la Santé des protocoles faits par la Haute Autorité de Santé pour la délivrance de certains produits, avec des questions obligatoires. Pourquoi pas ? On peut imaginer d'améliorer le système de santé français, c'est clair. Mais un système de santé qui n'a pas de problème de prix, parce qu'on a un des prix les plus bas d'Europe, qui n'a pas de problème de surconsommation sur ces produits-là. Moi, je pense qu'il est urgent de ne pas changer.
Alors, puisque vous parlez des prix, il y a quand même plusieurs études menées par les associations de défense de consommateurs qui l'ont montré. Hein. Par exemple, l'UFC qui avait fait 600 pharmacies, pour ne citer qu'eux, hein, puisque nous sommes aussi en présence de 60 millions de consommateurs ici. Mais les écarts de prix vont de 1,30€ à 4,95€ pour une même boîte d'aspirine vitaminée. Et le texte de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, souligne que les prix des médicaments non remboursables ont augmenté deux fois plus vite que le coût de la vie depuis 15 ans.
Tout à fait. Dans son avis, l'autorité de la concurrence reprenait d'ailleurs les conclusions, je crois, de UFC Que Choisir, qui montrait en effet des écarts de 1 à 4. En réalité, quand vous allez chez votre pharmacien, vous ne lui dites pas, écoutez, c'est 6€, merci, je vais comparer. Donc je crois que cet argument qui est de dire, au fond, ça porte sur assez peu, un montant relativement faible, ne me semble pas pertinent. En réalité, la concurrence est relativement locale. Et on voit bien que l'ouverture, notamment à la grande distribution ou au commerce en ligne, a cette vertu-là. Le but, ce n'est pas que les gens vont acheter en ligne. Regardez en Allemagne, le commerce en ligne, c'est rien. C'est rien et c'est énorme. Pourquoi ? Parce que maintenant, grâce au commerce en ligne, j'ai un point de repère. Je sais que la boîte de X ou Y, son prix de référence peut être 3€. Donc attention à ne pas tomber, je rebondis sur ce que disait M. Bezet, attention à ne pas tomber dans les débats un peu prétexte. La sécurité, on est tous pour. L'autorité, la première. Est-ce que ça justifie pour autant le statu quo ? Nous pensons que sécurité et concurrence raisonnée peuvent aller de pair. La sécurité ne doit pas être le prétexte à tous les statu quo.
Victoire Nsondé, 60 millions de consommateurs.
Je pense qu'on ne peut pas dire que le prix du médicament est un faux problème. Nous, on reçoit, je m'occupe de la santé à 60 millions de consommateurs. Sur la question de santé, les courriers sont très nombreux sur le prix du médicament. Les gens nous disent, j'étais dans telle pharmacie, c'était tel prix, puis je me suis rendu compte que le même médicament, il coûte deux fois moins cher dans une autre officine. Les gens ne comprennent pas. Et puis, on n'est pas encore habitué à aller dire aux pharmaciens, écoutez, moi, je veux tel médicament. Vous le faites à combien ? Je reviens demain, je vais voir chez à côté et encore à côté. Non. Donc, malgré tout, le prix du médicament, c'est une préoccupation des gens, même sur des médicaments qui sont peu chers, parce que beaucoup de nos concitoyens ont des petits budgets. Donc, c'est une vraie question, il ne faut pas l'éluder. On a déjà du mal, et c'est normal, parce qu'on parle de santé, donc on a du mal à faire cohabiter des questions d'argent, des questions de santé. Mais sur les médicaments qui sont à prix libre, ils peuvent être plus ou moins chers et donc il faut aborder cette question.
La question du prix, justement, on continue à l'aborder. Et puis également la vente en ligne des médicaments. On se pose ces questions jusqu'à 13h dans ce débat de midi. Un débat qu'on continue juste après Florent Marché qui remixe Héliopolis avec Jamaïca et c'est sur France Inter.
Héliopolis, la mer, soleil, Natura Beach, palmiers, mammifères, ni pauvre ni riche, séjour célibataire, hippie un peu triste, soirée disco grand air, rétine et jeu de piste. La mer, muqueuse et paréo, chakra dans l'atmosphère, j'entends plus la sono, Kato caresse tatami,
New Age, Quadra, Quinoa. La plage que des amis, le ciel m'ouvre les bras. Adieu les moutons broyés dans la ville. Bonjour la lumière, le ciel et la terre, chaman et cristaux. Bonjour enfant indigo.
Florent Marché, Jamaïca, et ça s'appelle Héliopolis, et c'était à 12h43 sur France Inter.
Vos messages, vos réactions sur franceinter.fr à la page de l'émission ou sur notre compte Twitter, @ledebatdemidi.
Les messages qui sont nombreux, notamment sur Twitter, Stéphane nous dit « Un médicament est un poison et cela malheureusement a été bien vite oublié par les patients » ou encore « Tout médicament est potentiellement dangereux ». Bah oui, dit Laurence. Sur franceinter.fr, Jean-Luc écrit « Je m'étonne de la réaction des pharmaciens car eux-mêmes sont devenus de véritables épiciers. Quand je rentre dans une pharmacie aujourd'hui, je trouve des chaussures, du parfum, des huiles essentielles, des chaussettes, des collants, des culottes. Comment croire qu'il s'agit d'un vrai conseil sans arrière-pensée mercantile ? Un autre internaute dit sensiblement la même chose à la pharmacie. Si j'achète de l'aspirine, le pharmacien ne me donne jamais de conseils. Alors quel intérêt de l'acheter chez lui plutôt qu'ailleurs ? D'autre part, on oublie souvent de me donner, entre parenthèses, mon ticket de caisse. Il y a aussi la question des médicaments en vente libre sur Internet. Et là, le conseil de l'ordre des pharmaciens est plus que vigilant sur la question. Vendredi dernier, le juge des référés interdisait au site 1001 Pharmacie la livraison de médicaments. C'est un site qui propose de faire livrer ces médicaments. Il y a quelques mois, le même conseil de l'ordre blâmait un pharmacien de Caen. Est-ce que, Philippe Bessé, vous qui êtes vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques, il y a une volonté de la corporation faire pression sur tout ce qui ne va pas dans le sens de la dite corporation ?
Bon, pas du tout. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Combes sur l'intérêt d'Internet dans la diffusion de l'information. C'est-à-dire que la transparence, la publicité sur les prix, tout ça, c'est quelque chose pour lequel Internet a beaucoup de sens. Beaucoup de sens également pour mettre en place au bénéfice du patient des comparateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que dans ces produits qui sont dans des classes thérapeutiques, quand on a une maladie, il y a 10 médicaments qui peuvent soigner une maladie. Et dans ces 10 médicaments, on peut choisir aussi un rapport qualité-prix. Et ça, le pharmacien est bien placé pour conseiller là-dessus. Donc pour nous, nous voyons Internet avec beaucoup, de façon très positive.
Pourquoi dans ce cas, le conseil de l'ordre, sans arrêt, en appelle à la justice, dès qu'un de vos confrères tente l'expérience en ligne ?
Parce que là, il s'agissait d'exercice illégal de la pharmacie, hein, en l'occurrence.
Donc pour mille et une pharmacies, hein, qui faisait de la livraison de médicaments.
Donc en l'occurrence, notre souci avec Internet, c'est d'éviter la contrefaçon. Mmh. On a la chance dans ce pays de n'avoir jamais de contrefaçon en officine. Il n'y a pas une boîte de médicaments contrefaits. Alors que les douanes arrêtent, venant de commandes par Internet de pays, d'autres pays, on a des affaires dans la presse, à n'en plus finir, sur ces contrefaçons de médicaments. C'est un vrai sujet, et le problème d'Internet, c'est ça.
4% des Français achèteraient aujourd'hui leurs médicaments sur Internet, ce qui ne représente que 0,1% des ventes. Dominique Dupagne, vous, médecin généraliste, vous souhaitiez réagir?
Oui, j'ai une expérience d'Internet, en tout cas de communication avec les patients. Et en fait, pour moi, Internet, ce n'est pas le site de vente, ni même le comparateur de prix. Enfin, pas dans le sens où ça a été dit. L'intérêt, c'est de pouvoir échanger entre internautes sur la pharmacie où le produit est le moins cher. Alors, c'est vrai que ça concerne plutôt des médicaments qui sont sur prescription, comme le Viagra, comme certains médicaments contre le paludisme, qui sont très, très chers. Et il y a sur Internet, sur les forums de patients, des gens qui s'échangent des bonnes adresses, parce qu'en effet, le prix peut varier du simple au double. Quand vous avez le comprimé de Viagra qui coûte plusieurs euros, c'est vrai que si vous avez une grosse consommation, vous êtes bien content quand même de pouvoir l'acheter le moins cher. Mais le site en ligne, c'est parce qu'on prend des modèles étrangers qui ne correspondent pas du tout à nous. Nous, on a des pharmacies de proximité, on a vraiment un maillage de pharmacies. Il y a le désert médical, c'est pas le désert pharmaceutique. Les pharmacies sont là, et d'ailleurs, à mon avis, elles sont un peu menacées par toutes ces attaques successives. Et donc, pourquoi attendre deux jours d'être livré d'un médicament alors qu'on peut aller le chercher en bas de chez soi? Ça n'a aucun sens.
Quasiment 23 000 pharmacies en France, Victoire Nsondé de 60 millions.
Je pense que l'intérêt d'une pharmacie en ligne, il n'est pas forcément, alors je vais peut-être me faire des ennemis chez les pharmaciens, d'acheter en ligne, mais de pouvoir comparer les prix et de se faire une idée du juste prix d'un médicament. Il y a des Moi, j'ai été regardé hier pour, comme ça, pour me faire une idée. Pour certains médicaments très courants, le prix peut être multiplié par 2 ou 3 selon les officines. Parce que les pharmacies en ligne, elles sont adossées à une pharmacie physique, hein, faut le rappeler.
Donc, c'est obligatoire.
Voilà. Pour vous faire une idée, moi, je m'intéresse à tel médicament. Pour vous faire une idée du prix, de la fourchette de prix, du juste prix, vous allez sur une pharmacie en ligne. Il y a aussi des comparateurs de pharmacies en ligne. Ça vous donne une idée des prix. Et ensuite, vous pouvez aller en officine chercher le médicament dans une pharmacie qui le proposera le moins cher.
Et c'est ce qui peut-être choque aujourd'hui le patient qui, du coup, a la sensation de devenir un consommateur. C'est bien cet écart de prix qu'il peut y avoir sur une même boîte de médicaments. Emmanuel Combes de l'Autorité de la Concurrence.
N'oublions pas qu'Internet, c'est aussi une autre vertu au-delà, en effet, de l'effet comparateur et quand même des baisses de prix. L'Allemagne a ouvert à la concurrence, enfin, au commerce en ligne ses médicaments depuis 2004. Donc on a un retour d'expérience, c'est en effet 3-4% de part de marché. Mais sur des médicaments, certains médicaments ont des très fortes baisses de prix, jusqu'à 40%. Mais Internet a un autre avantage, c'est aussi un avantage en termes de disponibilité de services pour les personnes isolées, les personnes immobilisées, éventuellement des horaires d'ouverture, certes, il faut du temps pour être livré, mais enfin c'est ouvert le dimanche, 24 heures sur 24. Ne négligeons pas cet aspect-là, qui n'est pas essentiel, mais qui est aussi un avantage d'Internet. Mais je partage ce que disait monsieur tout à l'heure, Internet semble-t-il est voué à rester un marché relativement limité si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays. Ça ne signifie pas que ça n'est pas intéressant pour autant, notamment pour comparer.
Sur Internet, franceinter.fr, justement, Olivier nous dit « Les professions médicales sont souvent très libérales en politique et en économie, sauf lorsqu'il s'agit de la remise en cause du monopole dont elles bénéficient. J'ai entendu des pharmaciens dire que la grande distribution qui vend des lasagnes au cheval n'est pas en mesure de vendre des médicaments. Pourtant, ces mêmes pharmaciens n'ont pas su protéger les consommateurs contre le médiateur. »
On ne parle pas tout à fait du même sujet. Là.
Patrick Erard, Dulem.
On mélange un petit peu tout. Non, la question d'Internet, moi je vais rester toujours sur le même sujet, c'est celui de la sécurité des auditeurs qui nous écoutent. C'est-à-dire que l'Internet, le premier danger, c'est l'ouverture au risque accru de médicaments contrefaits administrés par des commandes faites sur Internet.
Oui, qui ne viendraient pas de France dans ce cas-là.
Oui, mais pour un internaute lambda, il est très difficile de faire le tri entre des sites sécurisés et des sites qui ne le sont pas. D'ailleurs, il existe en France, avec un organisme qui est spécifique pour la lutte contre la contrefaçon des médicaments et le mésusage des médicaments à des fins toxicologiques, qui s'appelle l'OCLAESP, avec lequel le LEN d'ailleurs a un partenariat. Sachez qu'il y a à peu près presque 600 000 médicaments falsifiés qui ont été saisis l'année dernière. C'est dire à quel point la France est une plateforme qui sert de trafic aux médicaments falsifiés. Or, tous les sites Internet qui sont faits ne sont pas nécessairement des sites vertueux et correctement administrés par des pharmaciens, je dirais, labellisés et installés en France. Il y a un certain nombre de sites qui sont effectivement basés à l'étranger, pour lesquels vous pouvez avoir des ventes de médicaments sous des entités de leur nom de marque et qui sont en réalité des médicaments soit falsifiés, soit des médicaments fabriqués dans des conditions de sécurité qui ne sont pas les nôtres.
La question qui revient beaucoup et sur Twitter et sur franceinter.fr, c'est celle du prix. Comment expliquer, comment vous expliquez, représentant des entreprises du médicament, que sur une même boîte de médicaments, donc a priori exactement la même chose, les prix puissent aller de 1 à 4?
Eh bien, cher monsieur, de la même façon que vous expliquez la différence qu'il y a entre un produit que vous commandez sur Amazon ou sur eBay et un produit qui est vendu
sur... Sauf que le médicament n'est pas un produit, en tout cas c'est ce que nous disent les pharmaciens.
Mais je maintiens, mais simplement, je crois que mon confrère médecin généraliste l'a dit, c'est vous ne pouvez pas comparer des prix qui sont administrés par des pharmaciens qui ont un local, qui ont un service qu'ils dispensent en même temps que celui qu'ils font pour le médicament, qui encadre la prescription avec un site internet pour lequel vous avez par définition juste un clic non, et puis ensuite...
Il y a aussi des écarts de prix de 1 à 4 entre pharmacies d'office, Emmanuel, c'est ce qui a été montré par l'autorité de la concurrence et je crois par UFC Que Choisir. Donc là, on parle bien de comparaison entre
pharmacies. Enfin, sur des médicaments spécifiques.
Le médecin généraliste. Non, mais
les pharmaciens sont des commerçants, donc ils gèrent le prix des quelques médicaments qui sont en vente libre comme ils le veulent. Certains médicaments, ils vont faire un prix d'appel pour attirer la clientèle. Et vous pouvez très bien, dans la même pharmacie, avoir un produit qui est vendu moins cher qu'ailleurs et plus cher qu'ailleurs. Et c'est là que moi, je crois beaucoup plus à l'information du public. C'est le rôle aussi des associations de consommateurs. C'est de faire des comparatifs, éventuellement de faire des tableaux en disant voilà, dans telle pharmacie, nous avons constaté tel prix, pour que le consommateur soit orienté et sache où aller. Mais le débat, c'est plus informons-nous sur les pharmacies où le produit que je cherche est le moins cher, plutôt que de mettre ça dans une gondole au supermarché. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt, personnellement.
L'un n'exclut pas l'autre, à mon avis. Je pense que les deux sont complémentaires. Pour revenir à ce que disait M. Erard sur la contrefaçon, on est tous sensibles comme la sécurité. Pour autant, la contrefaçon justifie-t-elle de ne rien faire ? Les voitures, c'est très dangereux, ça crée même des accidents mortels. Interdit-on pour autant les voitures ? Oui. En clair, ne peut-on pas avoir un Internet sécurisé, avec des règles, pour prévenir ces risques ? Vous nous dites, il y a un risque, comme il y a un risque ? Restons sur une vision très...
Il n'y a pas un risque, bon, il y a des faits, monsieur.
Montrez-moi qu'en Allemagne, où depuis 10 ans, l'autorité a cherché à savoir si en Allemagne, depuis 10 ans, les médicaments sont vendus sur Internet. Montrez-moi qu'en Allemagne, le taux de contrefaçon est plus élevé du fait de cette ouverture des lignes.
Je vous invite à en discuter avec la gendarmerie et la police de l'OCLAES.
Donnez-moi les études scientifiques.
Quels sont aujourd'hui le nombre de sites qui font l'objet de traques de la part des autorités pour justement.
Non, on parle de sites en France, monsieur.
Alors, je le rappelle, de toute façon, aujourd'hui, la vente de médicaments sur Internet ne concerne que 0,1% des ventes. C'est relativement faible. En revanche, quasiment plus d'un Français sur deux, selon une étude CSA relativement récente, est opposé à la vente ailleurs qu'en pharmacie des médicaments. Philippe Bessé, vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques, voulait réagir sur le prix.
Oui, absolument. Sur plusieurs points sur le prix. Le premier, c'est qu'à la Fédération, nous l'avons toujours dit, nous sommes favorables à la réglementation des prix de tous les médicaments. Donc, sur le modèle du livre...
Y compris ceux qui servent à rien,
oui,
comme Dominique Dupagne nous l'a expliqué tout à l'heure.
Je vous ai démontré que ces médicaments ne servaient pas à rien. Ils servaient à soulager des symptômes qui permettent de mieux vivre pendant le temps de la maladie.
Cela aussi, d'accord.
Sur le prix.
Rapidement, s'il vous plaît.
Nous sommes prêts à réglementer les prix et nous sommes prêts à avoir un prix unique dans toutes les pharmacies de France. Néanmoins, je vous regarde aussi au niveau de la concurrence et des choses. Les pharmacies qui sont à côté des 2000 hypermarchés français, qui sont des galeries commerciales, ont toutes des prix très très bas. Les pharmacies qui ont des prix un peu plus chers sont des pharmacies de service, un peu comme dans les centres-villes, dans les zones rurales, dans les banlieues. Les pharmacies qui ont peu de dispensation de médicaments et qui rendent un véritable service. Mais au niveau de la concurrence, les pharmacies qui sont à côté des hypermarchés, elles vendent moins cher que les hypermarchés et c'est là, pour la parapharmacie, les choses qui sont en double circuit, que les gens vont acheter.
Merci Philippe Bessé. Je note en tout cas que vous êtes prêt à travailler sur la question du prix unique du médicament. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat de midi aujourd'hui. Notices biographiques et bibliographiques sont sur le site internet franceinter.fr et nous on se retrouve demain pour se demander si le nez n'est pas le parent pauvre de nos cinq sens et on attend déjà vos réactions sur franceinter.fr.